Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies avec en titre « Le Conseil de sécurité vote une résolution sur l'utilisation des armes chimiques en Syrie ». Annonce du prochain cycle de pourparlers libyens, le gouvernement du Burundi appelé à protéger les défenseurs des droits de l'homme, gros plan sur la situation des migrants à Calais et en Grèce, poursuite des opérations humanitaires au Myanmar, nous reviendrons aussi sur la crise financière que traverse l'UNRWA. Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité ce vendredi une résolution dans laquelle il décide de créer un mécanisme d'enquête conjoint pour identifier les responsables de l'utilisation d'armes chimiques, notamment le chlore, en Syrie. Adoption dont s'est félicité le secrétaire général qui devra présenter au 15 dans les 20 jours qui suivent et avec le directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques des recommandations pour la mise en place et le fonctionnement du mécanisme. On écoute Alexis Lamec, le représentant permanent adjoint de la France, qui a parrainé la résolution.
Plusieurs enquêtes de l'Organisation d'interdiction des armes chimiques, de l'AE, ont confirmé l'emploi de gaz de chlore en Syrie, mais sans mandat pour le faire, elles n'ont pu identifier les auteurs de ces attaques. Eh bien, le mécanisme d'investigation que nous établissons aujourd'hui permettra de confier à un organe neutre et indépendant la charge d'établir les responsabilités des attaques chimiques en Syrie de ces dernières années. Et il travaillera à cet effet en étroite coordination avec l'OIAC. Ensuite, ce vote est important parce que, en établissant ce mécanisme d'investigation, nous avançons vers la fin de l'impunité pour les attaques contre la population civile syrienne. Avec ce mécanisme d'investigation, nous allons pouvoir identifier ceux qui ont perpétré des actes criminels d'une particulière gravité. Ce vote, enfin, est important parce qu'il envoie un message clair de dissuasion à toutes les parties au conflit armé syrien.
Le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye, Bernardino León, a annoncé jeudi la convocation, lundi 10 août, d'une nouvelle série de pourparlers entre les parties libyennes. Ces négociations feront suite aux pourparlers qui se sont déroulés à Skhirat, au Maroc, où la majorité des participants libyens avaient paraphé le 11 juillet un accord politique destiné à résoudre la crise en Libye. Christina Silvero.
Une trentaine d'invités devraient prendre part aux pourparlers libyens qui doivent avoir lieu à Genève du 10 au 12 août prochain. Mais selon le porte-parole de l'ONU à Genève, pour l'instant, on ne connaît ni leur nom ni le format des discussions. Des détails qui devraient s'éclaircir une fois les participants sur place. Ce qui est clair est que le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye et chef de la mission onusienne dans le pays estime que des progrès importants ont été accomplis à ce jour dans le cadre du processus de dialogue, même si certaines des parties continuent d'avoir des réserves. Bernardino León a exhorté les principaux partis à redoubler leurs efforts pour forger une plateforme commune qui puisse constituer la base d'un règlement pacifique du conflit politique et militaire en Libye, tout en affirmant que tout règlement politique définitif inclura des garanties visant à rassurer les différentes parties au sujet de toute préoccupation.
Le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Michel Forst, a exhorté aujourd'hui le gouvernement du Burundi à protéger tous les militants des droits de l'homme. Cet appel fait suite à l'attaque brutale et à la tentative d'assassinat dont a été l'objet cette semaine Pierre Claver Mbonimpa, l'un des défenseurs des droits de l'homme les plus connus du pays. Michel Forst a réclamé une protection immédiate pour Pierre Mbonimpa pendant sa convalescence à l'hôpital et demande aussi que cette attaque fasse l'objet d'une enquête indépendante et impartiale. On l'écoute.
L'attaque brutale contre l'un des principaux défenseurs des droits de l'homme, Pierre Claver Mbonimpa, est aussi un signe de l'escalade de la violence. Ça n'est sans doute pas quelque chose qui est arrivé par hasard et c'est un acte qui a été commandité, on ne sait pas par qui, mais les jeunes du parti au pouvoir certainement sont impliqués et c'est un signal qui est envoyé à la société civile et aux médias que l'opposition est maintenant fortement menacée. C'est quand même pas par hasard qu'on s'attaque à un symbole comme Pierre Claver Mbonimpa qui est ce qu'on appelle sur place le doyen des défenseurs, donc quelqu'un qui est très respecté, qui a reçu des prix internationaux que j'avais rencontré au mois de novembre et qui m'avait alerté sur les risques de voir la situation s'aggraver dans le pays.
Le Haut-Commissariat pour les réfugiés appelle la France à présenter un plan d'urgence pour traiter la crise des migrants à Calais. On estime à 3000 le nombre actuel de réfugiés et de migrants qui se trouvent sur la côte du nord de la France. Nombre d'entre eux veulent franchir la Manche pour gagner le Royaume-Uni. Et le HCR s'inquiète du nombre croissant de victimes. Au moins 10 personnes sont mortes depuis le début du mois de juin. Les précisions de Céline Schmitt, porte-parole du HCR en France.
Nous avons déjà travaillé avec les autorités françaises pour qu'ils renforcent leur capacité pour réduire les délais de l'accès à la demande d'asile. Mais également, nous appelons pour qu'il y ait des conditions de logement décentes pour les personnes qui demandent l'asile. Des efforts ont déjà été faits. Un centre de jour a été ouvert ici à Calais par les autorités où les personnes peuvent prendre des douches, avoir accès à des machines à laver. Il y a plus de 2000 repas qui sont distribués tous les jours. Mais il y a 3000 personnes actuellement qui vivent juste à l'extérieur de ce centre, dans un espèce de campement où ils dorment sous des bâches en plastique ou alors des abris de fortune. Il faut trouver des solutions pour ces personnes.
Au Myanmar, les humanitaires continuent de se mobiliser pour venir en aide aux victimes des inondations. À ce jour, plus de 387 tonnes de nourriture ont pu être livrées, de quoi nourrir 103 000 personnes et 620 000 comprimés de purification d'eau ont été distribués. Selon le gouvernement du Myanmar, plus de 330 000 personnes ont été touchées, 88 personnes ont été tuées et près de 90 000 hectares de terres agricoles ont été détruites. Et ces chiffres risquent d'augmenter. Nicolas Guillot du Programme alimentaire mondial est sur le terrain.
Les régions qui ont été touchées par les inondations sont dans des zones très isolées, avec un accès très difficile. Les routes sont coupées par des glissements de terre et par les inondations.
À l'heure actuelle, il y a 12 des 14 régions ou états du pays qui font face à des inondations. Alors, elles sont d'amplitude variée. Les zones qui ont été le plus touchées sont les zones côtières de l'Arakan, donc à l'ouest, et le nord du pays. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que ces pluies qui se sont accumulées dans les bassins versants, elles redescendent le long de la rivière principale et on s'attend à ce que le delta de l'Irrawaddy, donc qui se trouve au sud du pays, subisse lui-même des inondations. Pour l'instant, notre objectif est de distribuer de la nourriture à 280 000 des 320 000 personnes touchées par les inondations. Ce que nous faisons, c'est la distribution de cuits à haute valeur énergétique et ou de rations plus complètes, celles de riz, d'huile, de légumineuses, de sel.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Après Lampedusa, la Grèce fait face à une arrivée massive de migrants et de réfugiés. Selon le HCR, le nombre de personnes qui arrivent dans les îles grecques par la mer a augmenté de 750% comparé à la même période l'an dernier. 124 000 personnes sont arrivées en Grèce depuis le début de l'année, dont 50 000 rien qu'au mois de juillet. La grande majorité de ces personnes sont originaires de Syrie. Vincent Cochetel, directeur Europe du HCR, s'est récemment rendu sur place. Il est au micro d'Alpha Diallo.
Si je vais au Cameroun ou au Tchad, les demandeurs d'asile qui arrivent, ils sont hébergés, ils sont nourris, ils ont de l'assistance médicale. Il n'y a rien de tout ça en Grèce quand ils arrivent. Il n'y a aucune structure d'accueil et les autorités n'assument pas leur rôle à coordonner les volontaires, les acteurs humanitaires qui sont prêts à faire un peu plus pour aider les autorités grecques. Donc il faut qu'on ait quelqu'un qui soit en charge et qui prenne ses responsabilités de façon à ce qu'on puisse les assister. On ne peut pas se substituer à un État de l'Union européenne. On n'a pas cette vocation là au niveau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Donc on aimerait que les autorités grecques répondent aux difficultés en matière de conditions de réception et on veut voir un petit peu plus de solidarité au niveau des États de l'Union européenne en matière de transfert financier, de compétences techniques, mais aussi de relocalisation d'un certain nombre de ces réfugiés une fois reconnus vers d'autres pays de l'Union européenne.
Vous insistez beaucoup pour rappeler qu'ils ne sont pas tous des migrants économiques, mais il y a surtout aussi des réfugiés venant de Syrie, d'Érythrée. Pourquoi le rappelez-vous ?
Il y a un petit peu dans les médias, c'est une crise migratoire. Ces gens-là quittent leur pays pour des raisons économiques. En Grèce, ce n'est pas le cas. Ce mois-ci, 73% des gens qui ont passé étaient syriens. Depuis le début de l'année, 63%, mais ce mois-ci, 73% sont syriens. 20% afghans, 4% irakiens. Ce n'est pas des gens qui fuient leur pays juste pour aller chercher du travail ailleurs. C'est des gens qui fuient à cause de la guerre dans leur pays. On sait ce qui se passe dans leur pays. L'Europe ne doit pas être surpris que des réfugiés viennent en Europe avec ces crises dans le voisinage que nous avons. C'est qu'une toute petite minorité de gens qui vient. 86% des réfugiés dans le monde sont dans les pays en voie de développement. Ils ne sont pas en Europe, ils ne sont pas dans les pays industrialisés. Donc si on a 124 000 personnes qui arrivent en Grèce, c'est rien par rapport aux 1,8 million qui sont en Turquie. C'est rien du tout. C'est gérable au niveau des 28. Donc on aimerait qu'il y ait une réponse un petit peu plus responsable et solidaire des pays européens et de la Grèce dans la gestion de cette situation.
Vous dites que c'est gérable, mais à ce stade, il y a combien de migrants économiques, bien de requérants ou de réfugiés en Grèce ?
On pense que les gens vont continuer à aller vers la Grèce parce que c'est très proche des les côtes turques. Le voyage est beaucoup plus court que le voyage de Libye vers l'Italie. Donc on pense que les gens vont continuer à venir en Grèce. C'est difficile de parler de chiffres. Les arrivées vont baisser peut-être à la fin octobre, début novembre, à cause des conditions maritimes et de vent dans les îles Aegean. Il faut que les autorités se préparent. Ça continuera l'an prochain. Donc il faut gérer ce problème-là. On ne change pas la géographie. Les gens vont continuer à partir, sauf si on a des solutions politiques dans les pays d'origine.
Et quand vous avez rencontré ces demandeurs d'asile ou ces réfugiés, est-ce qu'ils vous ont émis le souhait de rester en Grèce ou bien ils vous ont juste dit que nous sommes en transit dans ce pays pour aller ailleurs?
Beaucoup n'ont pas l'intention de rester en Grèce parce qu'ils voient la situation économique de la Grèce, ils voient l'absence de système de réception. Les autorités grecques ne leur donnent pas d'assistance, donc ils ne voient pas vraiment l'intérêt de rester en Grèce. Donc ils vont continuer à aller vers d'autres pays irrégulièrement. Et nous, ce qu'on dit, il faut que les autorités grecques développent une capacité de réception, d'intégration. Mais les États européens doivent s'engager en termes de solidarité pour qu'il y ait des transferts légaux d'une partie de cette population réfugiée vers d'autres États. Si ça n'a pas lieu ou si ça a lieu trop tard, les gens continueront à quitter irrégulièrement la Grèce vers d'autres pays.
Avec ce qui se passe en Grèce et ce qui se passe en Italie et ce que l'on observe à Calais, quel est votre appel aux autorités européennes, aux États?
Plus de responsabilité et de leadership dans la gestion des arrivées, une différenciation plus rapide de qui est réfugié et qui a vocation à l'asile en Europe et qui ne l'est pas et qui doit faire l'objet de retour dans les pays d'origine, on n'a pas le choix, et plus de solidarité. Les politiques européennes qui marchent sont basées sur trois principes, la responsabilité, la solidarité et la confiance entre les États. Et ça n'existe pas pour l'instant.
Le secrétaire général Ban Ki-moon a appelé cette semaine les États à remédier de toute urgence à la grave crise financière que traverse l'Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Le secrétaire général a jugé impératif que l'UNRWA, qui assure une aide à 5 millions de réfugiés palestiniens, soit dotée des ressources nécessaires pour lui permettre de continuer de fournir des services essentiels, tels que l'éducation d'un demi-million d'enfants palestiniens réfugiés. Marc Lassouaoui, officier de liaison de l'UNRWA, explique au micro de Tsigeh Chifera quel impact ce déficit budgétaire risque d'avoir sur le terrain.
L'impact au niveau des populations pourrait être grave encore une fois, si les fonds ne sont pas trouvés. Donc les enfants risquent de prendre du retard dans leur année scolaire. Au niveau des familles, les enfants seraient littéralement à la rue pendant cette période. Nous avons presque 700 écoles au Proche-Orient, donc pareil pour les professeurs. Aujourd'hui, l'UNRWA donc, finance cette éducation pour les enfants palestiniens. Ce sont les professeurs de l'UNRWA qui enseignent. Si demain, l'UNRWA repousse un petit peu ce début de l'année scolaire, nous parlons de 22 000 professeurs qui pourraient ne pas être payés pendant un temps. Un salaire donné à un professeur de l'UNRWA nourrit un nombre considérable de personnes. Donc on parle d'un impact à plusieurs niveaux. Je peux aussi un petit peu souligner une crise un petit peu plus profonde dans la région qui risque un petit peu d'augmenter cette instabilité qui règne aujourd'hui dans tout le Proche-Orient.
Quels seraient les risques de cette crise au niveau de l'instabilité dans la sous-région?
On espère qu'on n'en arrivera pas là, mais autant les pays qui hébergent ces réfugiés, donc nous parlons de Gaza, de Cisjordanie, mais aussi de la Jordanie, Syrie, Liban. Ces pays, aujourd'hui, veulent que l'UNRWA continue à travailler et fournisse ses services d'éducation. Si ces enfants se retrouvent à la rue, autant les familles, ces milliers et des milliers de familles, cela risque de mener à de nombreuses manifestations, soulèvements, peut-être des petites crises locales contre les Nations Unies, contre l'UNRWA. Encore une fois, ce ne sont que des possibilités, mais c'est des choses qui risquent d'attiser un petit peu le feu, le mécontentement dans la région, dans une région qui est aujourd'hui en crise, comme vous le savez.
Avez-vous déjà reçu des promesses de dons? Avez-vous déjà reçu des dons?
À ce jour, malheureusement, très très peu. Les dons confirmés ont été faits par le gouvernement suisse, que je me permets de remercier ici. Nous comptons beaucoup sur les gouvernements des pays arabes, notamment le Koweït, l'Arabie Saoudite et les Émirats, que nous aimerions voir un petit peu financer ce déficit. Nous espérons bien sûr que des grands pays et nos donateurs habituels, comme les États-Unis et l'Union européenne, pourraient aussi nous aider, financer une partie de ce déficit. Et bien sûr, tous les États des Nations Unies. Nous sommes une création des Nations Unies et de l'Assemblée générale. Et c'est aussi la responsabilité de ces pays que de nous financer et de s'assurer que notre budget est entièrement bouclé. L'heure est grave pour nous. C'est la première fois dans l'histoire de l'UNRWA que nous arrivons à ce genre de situation.
Est-ce que vous savez si en fait l'impact de cette crise, ou en tout cas la raison pour laquelle l'UNRWA est affectée à ce point financièrement, c'est peut-être à cause des autres crises qui se déroulent dans le monde? Pensez-vous qu'en fait l'allocation de fonds maintenant face aux diverses crises qu'il y a dans le monde signifie que certaines crises sont plus financées que d'autres?
Vous avez entièrement raison. Je crois que vous mettez le doigt sur un petit peu un problème général qui ne touche pas que nous, mais aussi beaucoup d'autres crises, comme la Syrie, comme le Mali, comme tous les endroits où les Nations Unies et d'autres organisations ont besoin de fonds. Je crois qu'il y a une multiplication des crises. Donc, ce sont souvent les mêmes pays qui doivent un petit peu financer toutes ces crises et il y a compétition dans les budgets. UNRWA est un petit peu sacrifiée par rapport à toutes les autres crises qui existent dans le monde.
Et c'est avec Marc Lassouaoui que se referme ce journal de la radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.